Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Oh, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Muriel au micro et aujourd'hui, je t'emmène sur la mer Caraïbe du Mexique avec Rachel. Salut Rachel, comment ça va?
Bonjour Muriel, ça va bien, merci. Et toi?
Ben, impeccable, c'est un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui.
Merci pour m'avoir.
Alors Rachel, moi, on m'a dit par ici que tu nageais avec des requins-baleines dans la mer caribienne mexicaine. Alors ça a l'air super fou cette histoire. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Raconte-moi déjà, commençons par le commencement. Qui es-tu? D'où tu viens? Raconte-nous un petit peu plus sur toi.
Ok, parfait. Ben, je suis canadienne. J'étais née à Ontario, Ottawa, la capitale.
Là-bas, ils parlent en anglais, non?
Oui, ils parlent en anglais, mais j'étais chanceuse. Il y a une région qui est française aussi. En fin de compte, mon père, il est de Québec, juste à côté d'Ontario. Et puis, j'avais la chance de parler français toute ma vie.
Ça, c'est top. C'est quand même un sacré avantage dans la vie quand déjà tu grandis avec deux langues.
Ouais, mais c'est ça. Et ma mère, elle parlait seulement en anglais. Alors, en français avec mon père, en anglais avec ma mère.
Yes, top. Et du coup, vas-y, continue, raconte-nous.
Et puis, ben, c'est ça, j'étais née à Ottawa, j'ai vécu là 28 ans, ben, j'ai déménagé ici au Mexique. Premièrement, j'étais tannée un peu de les hivers là-bas. Et puis, je savais que toujours je voulais vivre une place où c'était tropical, avec une belle plage.
Sous les tanniers, les cocotiers, le sable blanc.
C'est ça. Et puis, ben, quand j'étais jeune aussi, j'étais chanceuse, j'ai voyagé plusieurs fois. Ma mère était agente de voyage. Alors, depuis que je suis jeune, je voulais toujours explorer, aller sur des aventures. Et je disais quand j'étais jeune aussi que je voulais vivre à Miami. À cause de la plage, des palmiers, ça l'a changé. Mais
Mexique, c'est un peu plus exotique, hein, en plus, non? La tequila, les Mexicains.
C'est ça.
Et du coup, raconte, comment t'as pris la décision de t'installer au Mexique? Si t'y allais comme ça en vacances?
Ben, la première fois que j'ai venu au Mexique, c'est ça, j'étais en vacances. Quand j'avais 18 ans, avec ma mère, on est allé à Cancun. Alors, Cancun, c'est la place de fête, c'est ça. On est allé sur Spring Break au mois de mars.
Donc, Spring Break avec ta mère?
C'est ça, avec ma mère, c'était très amusant. En fin de compte, elle aime ça beaucoup, le tequila, là, mais elle m'a montré comment boire la bonne tequila. Et voyager, c'était incroyable, incroyable.
Top. Et là, tu t'es dit, c'est parti, je reste là, je repars plus.
Pas dans ce moment. En fin de compte, je viens juste de graduer, j'ai rentré dans le gouvernement, je travaillais dans un bureau chaque jour, la même chose. J'ai aussi fait un cours de mixologie. Alors, pendant les soirées, je travaillais comme barmaid. Et bien, je travaillais beaucoup. J'avais tout ce que je voulais dans la vie. Vraiment, j'avais ma maison, mon auto, ma moto. Mais c'était vraiment plus des choses. Et à un point, je me sentais comme je manquais quelque chose dans ma vie.
Ouais, bah ouais, le matériel, au final, ça ne nous satisfait pas tous.
C'est ça, et c'est très remplaçant. Alors, à un point, j'ai venu en voyage de visiter une amie ici à Playa del Carmen.
Playa del Carmen, c'est tu parlais de Cancun, c'est à côté?
C'est ça, c'est proche de Cancun, il faut prendre l'avion à Cancun, et c'est environ 45 minutes de Cancun, dans le milieu de Tulum et Cancun.
Tulum, c'est là où ils font la fête en ce moment aussi, donc beaucoup, non?
Aussi, ouais. C'est ça, j'ai venu en voyage, j'ai fait une excursion pour aller dans la jungle, aller voir des cénotes, faire des tyroliennes, aller
sur... Attends, c'est quoi des cénotes? Raconte-nous un petit peu aussi là-dessus.
Les cénotes, c'est une des choses les plus populaires ici dans le Yucatan. Il dit qu'il y a environ 6000 cénotes ici, et puis c'est comme un trou d'eau, techniquement ça veut dire trou d'eau, et il y a des cavernes, il y en a qui sont fermées, il y en a qui sont ouvertes, avec l'eau cristal bleu, c'est des rivières souterraines, techniquement.
Donc, toi, t'emmènes des gens nager dans des rivières souterraines mexicaines.
Ben, c'est ça. Un point, en premier, j'ai fait le tour et puis j'aimais beaucoup. Et là, les gens de cette compagnie m'ont dit, ben, on a besoin des guides en français. Et moi, je prenais ça comme une blague. Jamais je vais déménager au Mexique du Canada. Et ben, j'ai retourné au Canada et ça l'a resté dans ma tête. Et puis, j'ai fait une entrevue en ligne. Et j'ai dit, ben, peut-être que je vais essayer. Je vais venir pour 3 mois, voir si j'aime ça. Et ben, c'est ça, j'étais guide. J'apportais les gens sur les ATV, on faisait des tyrènes qui rentraient dans les cénotes, du rappel, des choses comme ça. Vraiment, c'était un travail d'aventure pour 3 mois. J'ai retourné au Canada et puis ben, j'aimais beaucoup ça. J'ai vendu plus de mes choses et là, j'ai déménagé ici au mois de décembre 2018.
2018, donc ça fait combien d'années déjà là?
Presque 5 ans. Au mois de décembre, ça va être 5 ans que je suis ici.
5 ans au paradis. Pas mal.
Ouais, c'est très beau.
Et donc, ce travail-là, ils t'ont appelé, ils t'ont fait tes papiers, ils t'ont fait venir au Mexique, c'est eux qui t'ont tout arrangé et t'es arrivé là, tout organisé par eux?
Un peu. Alors, quand que j'ai commencé avec la compagnie, c'est ça, ils m'ont dit qu'ils vont m'aider pour une visa de travail qui est, bon, l'habitude pour une année. Mais c'est un process avec la migration. Aussi, il faut avoir une entrevue, des choses comme ça. Alors, cette compagnie me disait que oui, on va t'avoir ton entrevue, on va avoir ton entrevue, mais ça poussait, ça faisait des semaines, même après ça, ça a duré des mois. Et il fallait que je sorte du Mexique à chaque 6 mois, parce qu'ici, quand tu viens, l'habitude, ils vous donnent 6 mois comme touriste. Et ouais, à un
parce
point...
Parce que tu n'as pas besoin de visa pour rentrer au Mexique, non?
Non, pas besoin de visa, juste le passeport. Et puis, ouais, les autres, ils choisissent combien de journées, mais l'habitude, c'est 6 mois. Alors, je restais ici 6 mois. Je travaillais un peu, on peut dire, en dessous de la table. C'était un peu
attention,
nerveux.
Attention, travailler en dessous de la table, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, Rachel. Au noir?
Ben, tu veux dire? Ouais, alors...
Pas déclaré.
Exactement. J'avais pas mes papiers encore, mais ils disaient que c'était en processus. Mais ça prend du temps, ils disaient. À un point, j'étais un peu fatiguée d'attendre. Et en plus, le travail que j'avais, je travaillais juste dans les cénotes. Et j'ai venu aussi pour être à la plage. Et mes journées libres, ben, j'étais vraiment fatiguée de travailler parce que c'est quand même un travail amusant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et des fois, quand tu veux relaxer, tu veux relaxer. Alors, j'ai trouvé une nouvelle compagnie que c'était toute avec les océans pour aller nager avec les tortues, nager avec les requins-baleines.
Alors, attends, ça, moi, c'est ça qui me surprend le plus, nager avec des requins-baleines. Alors,
c'est ça.
C'est quoi les requins-baleines? C'est des requins ou c'est des baleines?
C'est plus des requins. En fin de compte, ils sont les plus gros poissons dans l'océan. Ils sont des mangeurs filtreurs. Alors, tu sais, c'est pas comme les autres requins qui mangent des poissons ou les gens, ils ont tellement pas de...
Ils mangent qu'en filtrant, donc ils peuvent pas te manger. Il y a pas de risque.
Non, ils ont des bouches énormes, mais la grandeur de leur gorge est la grandeur d'une balle de golf. Et tout ce qu'elle fait, c'est elle ouvre sa bouche, elle rentre l'eau, elle mange du petit phytocryl, des planctons, des petits œufs de poissons. Mais toute leur vie, elle mange et elle vient à la surface. Alors, c'est très facile de faire le snorkeling avec eux. On rentre dans l'eau avec deux gens, on nage à côté du requin-baleine.
Donc, tu nages à côté du plus gros poisson des océans.
C'est ça.
Et combien ils peuvent mesurer?
Ouf, ben, ils peuvent mesurer. Ceux qu'on voit, c'est de 15 pieds jusqu'à 20, 25 pieds.
En mètres?
En mètres, environ 5 mètres, 10 mètres, même 15 mètres.
15 mètres?
Le plus grand à date qu'ils ont trouvé, c'était de 43 pieds. Alors, je crois que c'est environ... presque 20 mètres.
20 mètres énorme. Et toi, à côté, avec ton mètre 70, t'as l'air minuscule, non?
ouais, vraiment. Tu te sens minuscule, mais ils sont des animaux majestiques. C'est une expérience incroyable. Je l'ai faite une fois comme touriste et j'ai dit, waouh, ça, c'est top. C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Et là, je suis guide et je nage avec eux presque à chaque jour. Et je l'ai faite plusieurs fois, plus que peut-être 300 fois, là, j'ai nagé avec eux. Et à chaque fois que je suis à côté d'eux, c'est quand même le même sentiment de nager avec un animal tellement grand et tellement gentil. Ils sont des gentils géants. À la fin de la journée, c'est qu'est-ce qu'ils disent de les requins-baleines.
Et alors, attends, comment ça se passe? Toi, t'emmènes les gens, donc c'est quoi? Ils sont en liberté? C'est en aquarium? C'est quoi?
Ils sont en liberté, ouais, 100%. Et, enfin, il faut prendre un bateau d'environ 1 heure jusqu'à de Cancun. Et là, t'arrives à la zone des requins-baleines. Il faut les trouver, il faut les chercher. Ça peut prendre des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à temps qu'on les trouve. Et dès qu'on les trouve, et les capitaines et tout, ils disent que c'est bien, on met l'équipement, les pommes, les masques, et on fait le snorkeling avec eux. Et c'est ça, on nage à côté des requins-baleines le plus longtemps qu'on peut, parce que la plupart du temps, ils sont très vite et il faut nager. Des fois, il y a des gens qui rentrent là et ils nagent pas. Ils disent « Nage, à la fin de la journée, j'ai même plus de voix des fois parce que je crie à tout le monde « Non, je regarde dans l'eau !» Mais vraiment, c'est une expérience incroyable et je suis très contente que je peux montrer cette expérience à des gens de tout partout dans le monde.
Ah ouais, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial. Et c'est quoi, c'est des plongeurs, c'est du snorkeling, c'est masque tuba, c'est ça?
Masque tuba
palme.
C'est ça, exactement.
Et tu vas le plus vite possible pour attraper les requins-baleines et essayer d'aller nager le plus longtemps possible avec eux.
Plus ou moins.
Et s'ils font 15 mètres de long, de long, comment? C'est jamais arrivé que quelqu'un termine dans leur bouche?
Non, jamais. Ça s'est passé où ce que le requin-baleine, ben, ses yeux, en fin de compte, ils sont pas en avant de sa tête, ils sont sur le côté, alors ils peuvent pas voir en avant d'eux. Et j'avais une personne une fois qu'elle paniquait dans l'eau, elle voulait pas mettre sa tête dans l'eau. Et j'ai dit, bouge, le requin-baleine est là. On essaie de l'aider pour se bouger, mais il a foncé juste dedans elle, mais ils l'ont pas mangé. Alors, des fois, ça se passe, mais
C'est pas comme dans Pinocchio qu'il termine dans la bouche de la baleine. Ça marche pas dans la vraie vie. Et raconte-nous, je suis sûre que tu dois avoir des tonnes d'histoires, d'anecdotes. Quel est le truc le plus fou qui te soit arrivé de tes 4 ans à nager avec des requins baleines?
Aussi, quand on est sorti dans l'océan, on peut voir aussi des mantarées. Des mantarées aussi sont des mangeurs filtreurs. Et l'habitude, ils nagent dans l'eau. Ils sont comme les oiseaux de l'eau. Ils sont tranquilles et tout. Mais des fois, ils peuvent sauter.
Les raies mantas,
ils sautent, ils ouvrent ses ailes et puis, il fait ça pour enlever les parasites qui sont là, supposément. Après ça, je l'ai vu plusieurs fois du bateau et une fois, j'étais dans l'eau et je voyais la mantarée et elle commence à bouger ses ailes tellement vite et je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Et elle a sauté dehors de l'eau et elle a atterri presque par-dessus un de mes clients, un de les touristes et j'étais... Je pouvais même pas parler presque. J'ai dit au monsieur, t'es correct? Le monsieur, il savait même pas c'était une mantarée. Il était en train de regarder un requin-baleine. Et puis, j'ai dit, une mantarée.
Tu peux avoir les vrais mantas et les requins-baleines au même moment, à côté de toi? Ouais. Et même qu'ils te sortent dessus?
Mais l'habitude, il va pas sauter dessus, toi. Mais ça, c'était une occasion, je crois, qui arrive presque jamais. Mais c'est ça, lui, il est en train de nager avec le requin-baleine. Des fois, on peut voir les requins-baleines et les mantarées ensemble. Alors, c'est quelque chose incroyable à voir.
Wow.
Mais ça, c'était une histoire quand même fou. Et le monsieur pensait que c'était un bateau qu'il a touché. Il dit non, c'était une mantarée. ça, c'était une de les histoires.
Ah, vas-y, raconte-nous en une autre.
Alors, notre histoire, c'était un peu plus intense, on peut dire. Parce que, comme j'ai mentionné,
c'est celle qu'on aime.
On va environ 1 heure loin de Cancun. On a fait de l'activité avec les gens sur le bateau. Tout allait bien. Mais cette journée-là, c'était très rough. Il y avait beaucoup de vagues. C'était.
Vraiment. Ça arrive souvent, ça, j'imagine, ouais.
C'est ça, ça change.
Ah, les gens, ils sont pas malades?
Oh, malades, tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui va être malade.
Oh,
ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de donner dans le matin, du briefing, on les donne des Dramamine, on les donne du thé de gingembre, plusieurs remédies pour essayer
tout ce que tu peux pour pas qu'ils te vomissent dessus pendant la journée.
Et même des fois, ça l'arrive. Alors, c'est ça, on est allé là-bas, c'était fort et tout, et à un point, il avait une vague qui, boum, ça l'a cogné très fort sur le bateau, et même moi, j'ai dit, quelque chose a peut-être passé. Mais tout allait bien. Le capitaine dit « Non, tout va bien. » On est allé, on a fait l'activité de requin-baleine. Et là, on a terminé, on était en retour pour aller à Cancun. Et là, le capitaine, il commence à me dire « Hey, ça commence à rentrer l'eau dans le bateau. »
Non!
Et là, c'est une blague, non? Je prenais les petites masses de snorkel et j'essayais d'enlever l'eau avec les petites masses de snorkel. Boum, boum, boum. Mais ça commençait à remplir.
Non,
et
là, le capitaine... T'as fait un remix du Titanic?
Oh, un peu. Le capitaine dit, on est en train de couler. Tout le monde rentre dans l'eau. Et moi, c'est une blague, non? Non, on rentre dans l'eau.
T'es avec combien de personnes?
10 personnes. L'habitude, on est avec 10 personnes.
T'as le capitaine, t'as le bateau qui est en train de couler en pleine mer.
Ouais.
Au large de Cancun. En plein milieu des requins-baleines et des mantas qui sautent dessus.
Pas trop dans le milieu de eux. On était déjà sortis de la zone. Alors, c'était bien, on n'était pas où il avait tous les requins. Mais on était tout seul à ce point-là. Il n'avait pas d'autres bateaux autour de nous. On était au retour. Et là, il a dit, tout le monde à l'eau. Tout le monde saute à l'eau. Et j'avais une madame qui est venue sur cette excursion. Elle ne voulait pas aller sur le bateau. Elle ne voulait pas rentrer. Elle a seulement fait cette activité pour son mari. Et là, je lui ai dit, madame, il faut qu'on rentre dans l'eau. On est en train de couler le bateau. Non, je rentre pas dans l'eau. Faut rentrer dans l'eau. On met les gilets de sauvetage. On a sauté dans l'eau tous les 10. On avait des grosses bouées tout en entour. J'ai apporté tout le monde ensemble. Et mon travail comme guide, faut que je les fais sentir comme ils sont en sécurité ou que tout va aller bien, non? Si moi je commence à paniquer, ça va les faire paniquer aussi.
Bah ouais. Et t'as combien de mètres de profondeur là? Comment tu paniques pas dans une situation comme ça?
Là-bas, on avait un peu de profondeur. On pouvait pas voir le fond du tout. C'était au moins 50 mètres, probablement 150 pieds, où est-ce qu'on était? Parce qu'on était loin quand même dans l'océan Caraïbe. Eh bien, c'est ça, j'étais là, j'essaie de le faire tranquille, on riait un peu avec les gens, et à ce point-là, les capitaines, ils ont quand même des radios. Alors, ils parlaient avec d'autres bateaux, « Je suis en train de couler, viens nous sauver, tout ça. » »«
Je suis en train de couler, non mais ça.
» Ouais, et ils faisaient des cercles autour de nous, pour essayer de sortir de l'eau, parce que sur les côtés des bateaux, des fois, il y a des petits trous, et l'eau peut sortir quand ils coulent. Et il était là en train de faire des cercles autour de nous. Il disait,
avec vous, dans l'eau, et dans l'eau. Le bâton en train de couler, en train de tourner vraiment. Autour de vous.
Ouais, c'était comme un film, là. Et puis, à un point, un autre bateau est venu. Parfait, il nous a aidés. On a monté l'autre bateau qui coulait. Le capitaine, il dit, je vais aller vers l'île. Alors, il commence à aller vers l'île. Et il s'est rendu à l'île. Il était tout seul. Alors, on n'avait pas beaucoup de poids, comme s'il y était 10 personnes de moins. On est allé sur l'autre bateau. Et puis, il nous a rapporté à ce bateau-là. Et quand on est arrivé au port, ben, en fin de compte, il y avait des cordes et tout. Ils ont tout attaché le bateau. On est allé pour chercher les choses. Tous les sacs étaient mouillés. Ça allait tout rentrer au fond du bateau. Et ben, si on est resté là aussi, les gens ils seraient encore dans le bateau. Probablement qu'ils auraient perdu son bateau. Alors, il a fait la bonne chose pour nous dire de rentrer dans l'eau. Et...
Oh, quelle histoire! Et les gens, ils ont bien réagi.
Les gens étaient vraiment, vraiment bien. Je crois que ça, c'était à cause de moi aussi, non? De les faire sentir plus relax et qu'on va avoir de l'aide et des choses comme ça. La madame qui avait peur, qui ne voulait pas venir sur l'excursion, 100% sûre, elle ne va jamais aller sur un bateau dans sa vie.
J'imagine, tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin, tu te dis, oh là là, non, on m'oblige à aller nager avec les requins baleines. T'y vas, tu te fais 3 heures de bateau, t'y vas, tu nages même pas avec eux. Et en plus, en revenant, ton bateau, il coule. Non,
ouais,
la pauvre dame, j'avoue que une elle a toujours été de s'être levée ce matin-là.
C'est ça, elle était vraiment fâchée contre son mari aussi.
Et du coup, comment t'as terminé à travailler donc avec les requins baleines? T'es rentrée dans cette nouvelle entreprise et quoi, tu savais déjà, ils t'ont jeté comme ça dans la mer sans rien connaître?
Ben, ils nous donnent des formations, ils nous donnent 3 trainings pour voir si on est bien à l'aise dans le bateau. Parce que aussi, si t'es un guide, que malheureusement, t'es pas confortable d'être dans l'océan ou tu peux avoir des mal de mer très facilement. Comme j'ai enchaîné, il y a toujours une personne qui est malade sur le bateau. Alors, imagine si t'es un guide qui est malade sur le bateau, c'est pas la meilleure chose. Alors j'étais habituée, c'était bien. La première fois j'ai pris un Dramamine pour aider contre le mal de mer et après ça j'ai dit je vais pas la prendre pour voir si je suis capable de le faire ça c'est plus du non. Et puis ouais, c'était bien, là ils m'ont donné la formation, mais j'ai tombé en amour. On voit plusieurs choses aussi sur les bateaux, des fois on peut voir des tortues, des fois on peut voir des dauphins,
oh là là.
Des poissons qui volent. Alors c'est vraiment comme un safari d'océan, on peut dire.
J'avoue que ça fait rêver.
Ouais.
Ouais, j'avoue. Et là, tu te dis, bah ouais, pourquoi repartir au Canada où il fait froid? Là, j'ai mes palmiers, ma mer bleue, mes requins baleines, mes tortues.
C'est ça.
Pas mal. Et du coup, avec cette... comment ça se passe pour rester vraiment au Mexique, changer vraiment, s'expatrier totalement? Genre, tu changes de pays. Tu me disais que la première entreprise t'avait fait galérer pour tes papiers. La deuxième, elle t'a aidé?
La deuxième m'a aidé dans un mois, j'avais mon entrevue.
Donc, si moi, demain, je décide d'aller travailler avec les requins baleines au Mexique, là, ça y est, tu m'as convaincu, Rachel.
Ben, ça se peut. Si tu parles français, ils ont toujours besoin des guides qui parlent des différentes langues.
Faut parler espagnol, j'imagine. Toi, tu parlais espagnol quand t'es partie?
Non. En fait, quand je parlais pas espagnol, je savais juste les mots basiques quand t'es en vacances. Tequila, baños.
Ouais.
je savais pas beaucoup de choses. Et puis, j'ai appris mon espagnol ici. Aussi, je faisais beaucoup de formations sur Duolingo. OK, je sais, c'est
dans la pomme.
Mais
la
ça pomme. Fonctionne, ça fonctionne. J'ai appris au moins la moitié de mes mots en espagnol sur cette application. Alors là, je parle, je suis trilingue, 100%. Je suis confortable pour parler en espagnol, français, anglais, espagnol. Des fois, je change de langue dans une minute. Alors, ça fait penser, mais c'est quelque chose... je suis très contente que j'ai appris facilement.
Parce que des fois, dans le même tour, tu dois parler en français, en anglais et en espagnol?
C'est fou ça. L'habitude, on n'essaie pas d'avoir des tours avec les 3 langues, mais ça peut passer. Ça peut passer. Et puis, ben, ce point-là, c'est ça. Il faut que je change de français à anglais d'une autre seconde. Et des fois, j'oublie un mot en français ou j'oublie un mot en anglais ou en espagnol. Et... Alors, des fois, je mélange, mais la plupart du temps, j'en sors.
Et donc, pour en revenir, si moi, jamais je veux venir m'installer, par exemple, demain au Mexique, nager avec les requins baleines, comment je fais? Comment ça se passe? Comment je trouverais un travail comme ça de rêve?
Ben, premièrement, c'est d'avoir la confiance en toi, non? De prendre cette étape. Personne à la fin de la journée va changer ta vie. C'est toi qu'il faut qu'il prenne la première étape pour le faire. Et puis, ben, comme j'ai dit, j'ai venu ici, j'ai fait un tour, j'ai aimé le tour. Ils m'ont convaincu un peu qu'ils ont besoin des guides. Et puis après ça, ben, avec cette compagnie, ça n'a pas trop fonctionné. Mais il y a plusieurs d'autres compagnies qui ont besoin des guides en français tout le temps. Alors, avec cette compagnie, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé avec mon visa dans un mois. Il fallait que je sorte de Mexique. Je suis allée à Miami, la première place que je voulais vivre avant. Et puis, je suis allée voir l'ambassade là-bas du Mexique. Ils m'ont filmé des papiers. J'ai revenu. Après, je suis allée à l'immigration. Et là, j'étais légale pour travailler au Mexique pour une année. Alors, à chaque année, il faut que je vais à l'immigration pour rénover ma visa. Et bien, en fin de compte, cette année, c'est ma cinquième année, mais quatrième année sur papier. Et là, je peux avoir ma résidence permanente.
Ah, donc ça y est, légalement pour vivre forever and ever au Mexique.
Ben, je ne sais pas forever and ever, mais tout de suite, ça, c'est vraiment un chapitre de ma vie que je suis très contente que je l'ai fait. Tu sais, quand j'étais au Canada, ben, tu sais, j'avais tout ce que je voulais, mais mes amis commençaient à se marier, commençaient à avoir des bébés, et moi, j'étais juste pas là encore dans ma vie. Et j'ai réalisé, ben, c'est vraiment toutes des choses que j'ai qui me fait content tout de suite. Alors, peut-être une expérience de vie, un changement de vie, c'est quelque chose que ça va valoir la peine.
Ouais, ben ouais, j'imagine, ça doit pas être facile de sacrifier comme ça, tout ça. Et du coup, c'est une entreprise qui te sponsorise, c'est ça? Ou moi, je peux arriver et je paye mon visa de travail et puis du coup, je peux rester là? Ou faut que je me fasse aider par quelqu'un, un avocat?
L'habitude, faut avoir une compagnie qui te veut comme travailleur, en fin de compte. Et la compagnie m'a aidé avec l'avocat. Alors, c'est bien, il faut quand même payer pour ta visa. Mais il y a des options sûrement que si vous voulez venir vivre au Mexique, il y a d'autres options de le faire. Mais ça va coûter de l'argent avec les avocats. Aussi beaucoup de formation, de papiers, des choses comme ça. Alors, parce que j'ai rentré avec l'entreprise, c'était beaucoup plus facile d'avoir ma résidence ici pour travailler.
Et par exemple, pour travailler comme ça ici, tu as besoin d'une formation que tu as eue au Canada ou quelque chose comme ça, ou tu peux te former sur place? Est-ce qu'ils sont aussi demandants et regardants, ou est-ce qu'il y a plus d'opportunités ici et qu'on te demande de... Bah, plus de prouver tes valeurs, ou est-ce qu'il te faut un papier, un diplôme comme chez nous?
Non, pas du tout. En fin de compte, si tu es allé à l'école pour le tourisme, des choses comme ça, sûrement ça va t'aider, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, il t'apprend tout. En fin de compte, quand j'ai arrivé, je nageais, mais je n'étais pas un pro snorkeleur. Là, je peux te dire que ouais, je suis une sirène. Mais dans le temps, au Canada, ben, nous autres, on a des lacs. Les lacs, ils sont très verts. On n'a pas des océans. Alors, c'est vraiment différents types de vie, la nature. Ils te donnent la formation aussi de respecter la nature, des différentes choses. À propos de la crème solaire, fait beaucoup de dommages à nos vies de l'océan. Ça, je ne savais pas. Et plusieurs gens, ils ne savent pas. Quand ils viennent en vacances, la première chose qu'ils veulent et qu'ils font, c'est crème solaire. Mais c'est vraiment pas ça, c'est comme d'avoir une idée de qu'est-ce que ça fait à notre planète aussi, non? Alors, j'étais plus
Ouais, la vie matérialiste, la vie au final qu'on a dans les pays occidentaux en comparaison des pays latinos, c'est plus matérialiste, plus on n'est pas forcément informé sur toutes ces choses-là. Et
c'est
peut-être
ça.
Que d'être dans un environnement un peu plus naturel, où tu vois plus de nature, plus d'animaux, bah, ça sensibilise aussi plus, non?
Ben c'est ça, ça fait apprécier beaucoup plus la nature, la vie dehors de juste une petite ville où ce que je vivais. Et puis ben c'est ça, c'est quelque chose que ça ouvre tes yeux sûrement, spécialement si t'as jamais voyagé. Faut voir le monde, tu sais, c'est comme un livre, tu peux pas explorer le monde si tu lis juste une page. Faut vraiment voir d'autres pages pour te trouver qu'est-ce que tu es content avec. Et des expériences de vie, des fois, ça vaut plus la peine que des choses matérialistiques.
Bah ouais, ça c'est sûr. Voyageons tous. Et une question, en parlant de voyager, et moi je me demande comment ça s'est passé pendant la pandémie pour vous et là-bas au Mexique, parce que justement c'est un pays qui vit énormément du tourisme. D'ailleurs, je pense que c'est même une des premières entrées économiques du pays.
Vraiment, dans cette région, oui, ils relient sur le tourisme. C'était un challenge, je peux dire. Mais avant de déménager ici, j'avais une idée de faire un cours qui s'appelle le TEFL, pour Teaching English as a Second Language, pour enseigner l'anglais à des enfants ou des adultes. Ça dépend de avec quelle compagnie tu travailles. Et je voulais juste avoir ce certificat juste en cas que quelque chose se passe. Et bien, c'était une bonne idée parce que COVID est passé et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'il n'a pas de travail. Et bien, là, j'étais...
L'aéroport était ouvert ou fermé? Vous avez eu un confinement au Mexique aussi comme on a eu, nous, en France?
Ouais, mais au Canada aussi, c'était tout fermé, en fin de compte. C'était vraiment strict au Canada aussi. Ici, au Mexique, c'était pas trop strict, mais à un point, oui, il n'y avait plus d'avions qui atterrissaient. C'était quand même ouvert, mais c'était pas... totalement ouvert pour tout le monde, non? Je sais pas, il y a des gens qui pouvaient pas sortir de leur pays, mais nous autres, on acceptait quand même les Américains, et ça, c'était les ceux qui ont vraiment nous sauvés.
Mais tu donnais des tours pendant la pandémie, ou il y a quand même eu un moment où tout a fermé?
À un point, ouais, au mois de mars, je me souviens, le 21 mars, c'était la dernière journée de travail, et puis là, j'ai retourné au mois de janvier 2001. Alors, moi, je travaillais pas, Ils ont fermé totalement tout pour environ 2 mois. Et là, ils ont ouvert
donc
pendant
2 mois
l'été.
Sans travailler totalement.
Ouais,
c'était... Et comment ça se passe ici par... t'es protégé? T'as des choses comme ça? Ou par contre,
malheureusement,
là, c'est un petit peu plus à ta chance?
Ouais, c'est malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'aide ici au Mexique, malheureusement. On est très chanceux, tu sais, au Canada, je sais pas, en France aussi, je crois que, tu sais, le gouvernement, il aidait avec des sous, des choses comme ça. Ici, au Mexique, tout ce qu'ils ont fait, une fois par mois, il apportait une caisse avec du manger, du riz, des haricots, du papier de toilette,
des premières nécessités.
C'est ça, mais une caisse. Et waouh, il a des gens qui ont des familles de 10 enfants avec une caisse comme ça, ça va durer une couple de journées, non? Alors, c'était vraiment dur. Il y a malheureusement des personnes qui ont probablement mouru. Ils ont perdu leur maison aussi pour ne pas payer le loyer, des choses comme ça. Il avait des personnes qui payaient peut-être un peu moins. Ils comprenaient la situation et tout. Mais c'était rough. C'était très rough.
Et dans des moments comme ça, justement, dans ces pays comme ça, tu n'as pas un peu un esprit de solidarité qui naît un peu plus
Ouais, un peu. Mais je ne sais pas. À ce point-là aussi, je voulais peut-être presque retourner au Canada. Parce que j'étais pris, mais grâcement, ma grand-mère m'a aidé un peu et aussi de faire le travail d'enseigner en ligne l'anglais, ça m'a sauvé. Mais j'ai presque retourné au Canada, mais je crois que si j'aurais fait ça, je serais encore là. J'aurais pas revenu au Mexique, alors je suis très contente que je m'ai forcée et puis j'ai dit à la compagnie, dès qu'ils m'ont besoin, tiens, laisse-moi savoir. Je voulais pas les pousser beaucoup pour les dire, donne-moi du travail. Je suis même pas dans mon pays. Je voulais faire sûr que, tiens, les collègues mexicains pouvaient travailler avant nous autres, les immigrants, hein, techniquement. Et puis, ben, à ce point-là, ils m'ont avisé, OK, tu peux revenir au travail. C'était un peu bas les premières semaines, mais après celle-là, là, c'est retourné au normal.
Ouais, maintenant, le COVID, ça fait déjà ouf, ça passe super vite.
Ouais.
Et du coup, au final, tu regrettes d'être restée au Mexique pendant le Covid? Non, hein?
Pas du tout. Je suis très contente que j'ai resté, en fin de compte.
Bah ouais, c'est quand même pas la même vie. Qu'est-ce qui t'a plu ici en comparaison au Canada? Quelles sont les différences? Parce que c'est totalement une autre culture, il y en a pas. Les gens sont un peu plus chaleureux aussi ici.
Ah, les gens, ils sont très chouettes. Sont vraiment, c'est quelque chose de différent. Et aussi... c'est d'une personne qui vient d'un autre pays. Et oui, des fois, si je suis en train de marcher dans les sections plus locales, ils me regardent un peu, qu'est-ce que cette fille fait ici? Mais à un point, tu t'habitues, non? Les premières années, j'étais un peu, des fois, un peu nerveuse, la seule fille blanche, je peux dire. Et puis,
blanche et blonde.
Blanche et blonde, c'est ça.
Aux yeux clairs. J'avoue qu'au Mexique, c'est...
C'est pas quelque chose qu'ils voient toujours. Alors, mais c'est bien, quand j'ai commencé à apprendre de parler plus en espagnol, c'était parfait parce que je pouvais communiquer avec les gens, me sentir un peu plus confortable. Mais c'est très drôle des fois, même de ces jours ici, ça me passe encore. Je vais pour parler en espagnol à une madame, un monsieur, et là, il dit « No English, no English ». Et j'ai dit en espagnol « Je suis en train de parler en espagnol ». Il dit « No English ». J'en ai « Estoy hablando en espagnol ». Et bien, après, il me dit « Ah ben, pardon ». Parce qu'il me regarde, il pense « Oh ». Anglais.
Ils t'attendent pas à ce que tu parles espagnol. Ah oh, tiens, apprends-nous un mot cool, mais mexicain espagnol.
Ben, chido, ça veut dire cool, en fin de compte. Alors.
Chido,
todo chido, todo
super
bien.
Chido.
C'est ça, tout est bien.
J'aime bien. Rachel, tiens, si tu devais nous donner un conseil à suivre pour réaliser, se lancer. Tous les gens qui n'osent pas, qui sont chez eux, qui sont en train d'écouter ça, qui se disent « mais ah, je ferais bien quelque chose comme ça. Moi aussi, j'ai envie d'aller voir des lions
en Afrique
ou des requins-baleines au Mexique. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie, mais des fois, qui ne savent même pas qu'ils ont envie, ou alors qui ont envie, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Leur famille les décourage.
Ouais.
Je ne sais pas toi si ta famille a été supportive ou s'ils ont essayé de te retenir aussi.
Moi, ma famille était très supportive. Je serais très chanceuse avec ça. Plusieurs de mes amis qui n'ont jamais même sorti du Canada, ils me disaient « T'es folle, tu vas vivre au Mexique, c'est dangereux, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. » Mais ça,
parce que les gens, ils s'imaginent Narcos Mexico, la série.
C'est ça, malheureusement, ils ne montrent pas le meilleur image, on peut dire, du Mexique. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Hein. Ça, c'était les personnes, comme j'ai dit, qui n'ont jamais même voyagé dehors du Canada. Alors, ils ne peuvent pas juger quelque chose ou une place où ils n'ont jamais été. Alors, pour moi, les gens qui n'ont jamais voyagé ou sont en train de penser « Je devrais-tu déménager là ou quoi? » Juste de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de prendre une étape, de sortir de ta zone de confort et de faire quelque chose de nouveau. Tu sais, les choses matérialistiques, ils vont toujours être là, mais les expériences de vie, c'est quelque chose que c'est dans le moment. Alors, soyez pas peur et prends l'avantage et voyage, voyage, va explorer le monde. Il a tellement de belles places tout partout que tu vas manquer ça. Quand t'es vieille, si t'as 80 ans, tu vas dire « Ah, j'aurais aimé faire ça ». Non, moi, je veux être la vieille qui va dire « J'ai fait ça ».
J'ai fait ça. Moi, j'y étais. Ben ouais, c'est, le Mexique, c'est resté ton pays favori de tous tes voyages?
Ouais, sûrement. Pour tout de suite, oui.
Et maintenant, t'as redé d'envie de voyage, d'aller explorer d'autres parties ou...
Ouais, en fin de compte, j'ai essayé d'explorer un peu plus tout partout, dans le Yucatan. Au mois de septembre, je vais aller à Chiapas. Chiapas, c'est une autre belle place, proche dans le Yucatan aussi. Il y a beaucoup de cascades, il y a des canyons, il y a des volcans. Alors, je veux définitivement explorer un peu plus du Mexique avant que je vais explorer d'autres places dans le monde.
Ah, le Mexique. J'avoue que le Mexique, ça, c'est un pays qui fait rêver. Ben, écoute, Rachel, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça aura inspiré tous ces gens qui osent pas se lancer. Et ton histoire, en espérant qu'ils coulent pas avec leur bateau quand ils viennent au Mexique. Mais bon, ça, ce serait...
Ça, c'est très rare. Hein. Le capitaine me dit, ça fait 17 ans que je travaille dans avec les bateaux. Je suis capitaine et ça m'a jamais passé. Alors, c'est quelque chose qui passe presque jamais.
C'était pour toi.
Ouais.
Donc voilà, si vous avez envie d'aller nager avec les requins baleines, de couler avec votre bateau... Non, mais évitons cette partie, mais de venir explorer le Mexique avec Rachel. Je vais vous laisser son lien dans la description en bas. Bah, merci Rachel en vrai pour tout.
Et merci à toi Muriel, c'était vraiment fun.
À très bientôt.
À la prochaine. Prends soin.